VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, l'armée nationale compte ouvrir des enquêtes sur les accusations de violation des droits de l'homme portées contre cette troupe, notamment dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Michel Joseph.
Le chef d'état-major de l'armée de terre nigériane, le général Tukur Buratai, qui a annoncé la nouvelle mercredi à Abuja, a expliqué qu'une équipe a été mise sur pied pour conduire ces enquêtes. Celle-ci comprend des officiers en retraite et en service, ainsi qu'un membre de la Commission nationale pour les droits de l'homme. L'équipe examinera les accusations d'exécution sommaire, de détention arbitraire, de torture et de disparition forcée de terroristes présumés de Boko Haram, mais son mandat n'inclut pas le massacre de musulmans chiites en décembre 2015, a tenu à préciser le général Buratai. Selon une enquête de la Commission nigériane pour les droits de l'homme, datant d'août dernier, 347 personnes ont été tuées dans ces incidents, mais aucune sanction n'a été prise à ce jour contre les militaires impliqués. Amnesty International et des groupes indépendantistes tels que les militants pro-Biafra du Sud ont accusé les militaires nigérians de violation des droits des civils dans leurs opérations. Des accusations jusqu'ici rejetées par les autorités militaires nigérianes.
Nigeria toujours, après des mois de récession et de critiques sur la gestion du pays, le gouvernement nigérian s'est engagé dans une nouvelle politique économique avec un objectif de croissance de 7% d'ici 2020, que les économistes jugent très ambitieuse. Dans un document de 140 pages, le ministère nigérian du budget dresse un constat sombre de la situation actuelle, pointant notamment la chute des recettes publiques, l'affaiblissement de la devise nationale, le Naira, par rapport au dollar et l'inflation à deux chiffres dans un contexte mondial d'effondrement des prix du pétrole et d'attaques rebelles sur les installations pétrolières du sud du pays qui ont affecté la production nationale. Politique en RDC, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, a fait savoir mercredi à Kinshasa que les divisions au sein du rassemblement de l'opposition bloquent l'application de l'accord de sortie de crise politique. Cet accord a été négocié sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo. Après la mort le 1er février à Bruxelles de son chef, Étienne Tshisekedi, le rassemblement fait face à des divisions internes. Et lundi, l'Église catholique a recommandé vivement à toutes les composantes du rassemblement de privilégier l'unité pour faire avancer les choses vers une cogestion pacifique entre majorité et opposition jusqu'aux élections prévues fin 2017. Au Kenya, un député du centre du pays inculpé d'incitation à la violence pour avoir encouragé de récentes invasions de terres dans sa région. Incidents qui ont provoqué la mort de 8 personnes, dont un Britannique. Plus de détails avec Eddie Sango.
Mephile Mpokel, député pour la circonscription de Laikipia Nord, a été libéré après avoir été inculpé la veille et après avoir passé un jour en détention préventive, il a dû payer une caution de 2 000 $. Mephile Mpokel est mis en cause dans le meurtre dimanche d'un Britannique né en Afrique du Sud, tué dans son ranch alors qu'il inspectait les dégâts causés par les passages des éleveurs et leurs troupeaux. Le député est perçu comme l'un des hommes politiques jouant sur les peurs des éleveurs pour encourager les invasions des terres à des fins électoralistes. Des milliers d'éleveurs, dont certaines armées, des lances et d'autres d'armes automatiques, envahissent des ranches et des réserves privées de la région de Laikipia sur les contreforts de Mont Kenya à la recherche des pâtures pour leurs chèvres, vaches et moutons alors que le pays est touché par la sécheresse. Des photos de jeunes portant des t-shirts avec la mention Team Limpurkel envahissant en janvier les ranches suyant où des logements pour touristes avaient été brûlés sont brandis comme preuve contre les députés. Au total, 8 personnes ont été tuées depuis décembre et 10 blessées dans ces incidents. La police a intensifié la lutte contre les éleveurs de Laikipia et 379 personnes ont déjà été arrêtées dans cette région.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Université du Burundi passe des bourses généralisées à un système de prêt-bourse suite à un décret présidentiel signé le mois dernier. Les autorités burundaises expliquent que c'est pour responsabiliser les futurs cadres du pays. Mais bon nombre d'étudiants insistent pour que le président Pierre Nkurunziza abroge son décret, soulignant que de nombreuses familles n'ont pas les moyens de vivre dans la capitale Bujumbura où les prix des produits de première nécessité ne cessent de flamber. Reportage à Bujumbura de notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Il est 10h à l'université du Burundi, tout près de l'amphithéâtre de la faculté de droit. Les étudiants sont dans la pause traditionnelle. Interrogé, un professeur de droit pénal indique que la question du prêt-bourse va diviser les étudiants boursiers et non, et que l'on se dirige carrément vers la suppression de la bourse au Burundi. Dans leur pause, certains étudiants hésitent à s'exprimer, mais après maintes conciliabules, un groupe de 3 étudiants délégués estime que le décret présidentiel du 16 février 2017 doit être abrogé pour l'intérêt supérieur des étudiants aujourd'hui démunis.
On trouve que ce n'est pas le pré-bourse, c'est la suppression de la bourse en soi. Nous n'aimerons pas ce projet qu'on soit mis en application. Nous sommes dans la situation très mal.
Nous constatons que c'est un système discriminatoire parce qu'un enfant de la famille pauvre bientôt va abandonner ses études. Il fallait que ce projet soit abrogé.
Ce n'est plus une bonne loi parce que compte tenu de la situation économique de nos chères familles, personne ne peut rembourser ses prêts-bourses. Nous demandons de veiller à abroger ce prêt-bourse.
Si le prêt-bourse est institutionnalisé dans bon nombre de pays occidentaux et américains, cet étudiant affirme que le Burundi ne va suivre le modèle des autres pays plus développés.
Si le Burundi veut imiter les autres pays, il faut d'abord vivre comme les autres pays. Mais au Burundi, nous sommes très en arrière. Alors comment on pourrait imiter les autres pays?
Ancien étudiant et cadre administratif à l'université du Burundi, Emmanuel Bigriman reconnaît que cette mesure sera dure à avaler pour les parents burundais, même si la mesure entre dans les nouvelles réformes instituées par les autorités burundaises.
En tant qu'ancien bénéficiaire de la bourse d'études, je comprends l'orientation politique, mais l'essentiel consiste à expliquer. En tant que parent, ça devient dur pour le parent qui aujourd'hui paie difficilement ses factures. Mais c'est un choix du gouvernement, un choix lié au contexte. Le parent se trouve dans une situation de plus en plus difficile.
La ministre Geneviève Ndiraïche réussit en Paris, là où d'autres ministres antérieurs avaient échoué. Cette question de prêt-bourse mettra beaucoup de temps pour son application effective dans un pays très pauvre, selon un professeur qui a requis l'anonymat. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Tunisie, Tunisair a annoncé ce matin interrompre l'ensemble de ses liaisons aériennes jusqu'à nouvel ordre en raison de tensions entre pilotes et techniciens et aussi pour préserver la sécurité de la flotte. Selon la radio tunisienne Mosaïque FM, des heurts ont éclaté entre personnel navigant et techniciens au départ d'un vol pour Paris. Et puis à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mercredi une séance d'information à huis clos sur les derniers lancements de missiles balistiques nord-coréens, alors que la Chine appelle la Corée du Nord, la Corée du Sud et aussi les États-Unis à prendre des mesures pour éviter le pire. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Après la réunion à huis clos hier après-midi, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a tenu un point de presse en compagnie de ses homologues de la Corée du Sud et du Japon. Selon la diplomate américaine, les récentes actions de Pyongyang et de son dirigeant Kim Jong-un devraient préoccuper tout le monde et les États-Unis doivent voir une action positive de la Corée du Nord avant que des discussions puissent débuter sur la péninsule. Nous avons vu un lancement en février, nous avons assisté à l'assassinat de Kim Jong-nam au moyen d'armes chimiques, ce que la Malaisie a signalé, et maintenant le lancement de plusieurs missiles balistiques. C'est quelqu'un qui cherche à attirer l'attention et qui veut provoquer une réaction, mais ce qui nous dérange, c'est que ces missiles sont tombés à moins de 200 000 marins du Japon. Ils ont dit que leur objectif est d'être en mesure d'atteindre les bases américaines au Japon. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère, a déclaré Nikki Haley. Le président Donald Trump a réaffirmé l'engagement ferme des États-Unis aux côtés des Japonais et des Sud-Coréens face à ce que la Maison-Blanche appelle les violations répétées des résolutions de l'ONU par la Corée du Nord.
Actualité aux États-Unis toujours, les entrées sur le territoire américain de personnes non admissibles, c'est-à-dire d'immigrés clandestins, ont baissé de 40% en février par rapport à janvier. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement américain mercredi, mettant cela à l'actif de la politique du président Donald Trump. Ces premiers résultats montrent que l'application des lois a un impact, a déclaré John Kelly, le ministre américain de la Sécurité intérieure. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.